à Rencontre spirituelle aujourd'hui sera question de Sainte Foitine. On vous a annoncé ça ce matin simplement en vous disant que c'était la Samaritaine. Mais la Samaritaine, c'est plus intéressant du Nouveau Testament, c'est dans l'Évangile de Saint Jean. Quand on parle de la Samaritaine, c'est de savoir si vraiment elle a prêché elle a vraiment cherché la vérité. C'est ce que Jésus lui enseigne d'ailleurs. Et ce dialogue entre la Samaritaine et Jésus est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un des beaux textes du Nouveau Testament. La Samaritaine, d'après la tradition, était la mère de deux fils, Joseph et Victor. Et c'est d'après les Grecs qu'on a ces renseignements-là. Foitine est cette fameuse femme de Samarie, donc, qui est située, n'est-ce pas, entre Jérusalem et Nazareth. Donc, au nord de Jérusalem, puis avant, évidemment, d'arriver à Nazareth, qui est en Galilée, Nazareth, hein, comme Capharnaüm, et Jésus, mais pour se rendre en Galilée, doit passer par la Samarie, il doit passer, donc, en plein midi, en Samarie, fait chaud, et il va lui parler en lui demandant de l'eau fraîche. C'est au 4e chapitre de l'Évangile de Saint Jean, comme je vous ai dit. Puis, on y donne, chez les Grecs, toutes sortes de détails. C'est sous la persécution de Néron, après le martyr des saints apôtres Pierre et Paul, que cette femme, Foitine, avec son fils Joseph, se trouve à Carthage, en Afrique. Où, savez-vous ce qu'elle fait? Elle prêche. Bien oui, c'est assez surprenant, hein? Cette femme qui prêche. Elle prêche la foi du Christ à Carthage, en Afrique. Son autre fils, Victor, après avoir combattu vaillamment, devient chef de la milice, puis reçoit l'ordre de mettre à mort tous les chrétiens de Galilée. Mais au lieu de remplir cet ordre, il s'y refuse, hein, il se met à enseigner lui-même la foi chrétienne comme sa mère. Et c'est lui, dit-on, qui reconvertit Sébastien, dont je vous ai déjà parlé, ce jeune homme qui a servi de modèle à bien des peintres, n'est-ce pas, parce qu'il a été transpercé de flèches. Un soldat. Et donc, pour avoir converti Sébastien, il se trouve, ce Victor, arrêté, puis traduit avec d'autres, devant le tribunal de l'empereur. Et l'empereur lui fait crever les yeux. Il fait crever les yeux, d'ailleurs, à plusieurs des accusés. Puis il a emprisonné ou crucifié les autres. Il fait attacher la Samaritaine, Sainte Foitine, à deux arbres rapprochés l'un de l'autre, dit-on, et qui, en s'écartant ensuite, l'écartèle. D'autres sont décapités, puis Sainte Foitine termine, finalement, elle n'est pas morte de cet écartèlement, elle termine ses jours dans la prison, disent les Grecs, où elle est demeurée longtemps enfermée. Voilà pour le résumé de sa vie, c'est tout ce que, à peu près, on peut savoir, c'est dans des traditions. On croit que le crâne de Sainte Foitine a été conservé, dit-on, à Rome, à l'abbaye de Saint-Paul hors les murs, où il y a des moines bénédictins, ce sont les moines bénédictins du Mont Cassin qui sont là. Je me demandais qui sont ces Samaritains. Il est question, vous savez, du bon Samaritain, puis de la Samaritaine. Il y a une montagne, là, le Mont Garizim. L'histoire du bon Samaritain, c'est une parabole, bon. Alors, mais il n'y a rien de fictif au sujet des Samaritains eux-mêmes. Il n'y en a pas beaucoup de Samaritains aujourd'hui. Il en reste peut-être 500, 600, pas beaucoup plus. C'est tout. Et ces gens, ces Samaritains, occupent bien petit territoire, et puis ils ont un rôle très simple et très discret dans le combat actuellement entre les Palestiniens puis les Israéliens. Ils ont vécu pour des générations et des générations autour de la ville de Naplouse. Il est souvent question dans les nouvelles de Naplouse, mais c'est au cœur de leur Samaris. Ils parlent l'arabe. Et ils travaillent avec leurs voisins musulmans. Puis en même temps, ils pratiquent leur foi. un peu particulière, qui est très près du judaïsme. Comme disent les Samaritains aujourd'hui, nous avons été ici sur cette montagne de Garizim depuis 3650 ans et davantage. C'est un prêtre qui dit ça, Atef Nagi. Nagi, comme les autres Samaritains d'aujourd'hui, s'est habitué au monde moderne. Et ce prêtre étrange fait des petites amulettes contre l'infertilité, les mauvais rêves, la malchance, pour toutes sortes de clients qui viennent du Koweït et des États-Unis et d'un peu partout. Il dit, nous ne sommes pas d'une communauté d'anges, dit ce prêtre. Nous portons, de grands vêtements noirs, un turban, quand on travaille dans nos magasins à la pelouse. Mais notre bonne réputation, quand même, est très utile. Ils ont une excellente réputation, les Samaritains, aujourd'hui. Peut-être avait-elle déjà ce cœur de feu, la Samaritaine, Sainte Fotine. L'histoire des Samaritains est remplie de mythes et de débats religieux. Les membres de ce groupe croient qu'ils sont les descendants des véritables Israélites, les premières tribus qui sont arrivées. Mais la plupart des spécialistes de l'histoire juive sont d'avis contraire. On les regarde comme des colonisateurs qui ont été envoyés par les Assyriens autrefois, qui étaient des païens. Mais ils forment une nation, comme ils disent, c'est une nation qui est toujours là, petite nation de 500 à 600 personnes, incroyable, hein, qui ont leur langue, leur religion, et puis, comme ils disent, leur race aussi. Ils disent qu'il n'y a pas de différence entre eux, puis une culture comme celle, disons, des Chinois, sauf le nombre. Bon, les Chinois sont plus d'un milliard, eux, ils ne sont que 500 ou 600. D'ailleurs, vous savez que lors d'un recensement en 1917, il n'y en avait plus que 152. Ils ont augmenté. Heureusement pour eux. Alors, il y a quand même une cohésion étonnante chez les Samaritains d'aujourd'hui, parce qu'ils assistent aux cérémonies du sabbat comme aucun peuple de la terre n'assiste à leurs offices. Hein. Parce que si quelqu'un manque l'office, il n'est pas là pour les prières, il y a un voisin qui va aller frapper à sa porte pour le réveiller, puis se demander s'il est malade et comment ça se fait qu'il n'est pas là. Alors, le cœur de cette communauté, c'est Naplouse, entre Jérusalem et Nazareth au nord, et puis il y a quand même quelques Samaritains, même plusieurs, qui vivent à Holon, près de Tel Aviv. Ils y travaillent. Une fois par année, les Samaritains s'occupent de leurs voisins. Ils invitent les gens pour la Pâque sur le mont Garizim, où ils préfèrent célébrer Dieu, n'est-ce pas? Dans le texte qui concerne la Samaritaine, dans le chapitre 4 de Saint Jean, on peut lire que se rendant en Galilée, où il y a donc Nazareth, Cana, Capharnaüm en Galilée, là, le lac de Tibériade, Jésus passe par la Samarie, il vient de Jérusalem au sud. Et près du village de Sichar, il s'arrête fatigué. Il fait chaud, c'est midi. Il s'assoit, dit le texte, comme ça, simplement, sur la margelle du puits de Jacob. C'est un endroit important dans l'histoire de ces peuples. Il était donc midi, et devant lui, une femme, la Samaritaine, qui n'est pas conformiste. C'est une femme libérée, dit-on, aujourd'hui. Elle est sans peur, mais elle n'est pas sans reproche. C'est une femme qui a fait l'amour avec beaucoup d'hommes. Et la coutume et la loi, telles que l'expliquaient les rabbins à cette époque, interdisent à un homme de parler en public, même à sa femme, saviez-vous ça? Même à sa femme, peut pas parler en public à sa femme. Et à plus forte raison, à une étrangère, et encore à plus forte raison, à une Samaritaine qui n'appartient pas vraiment au peuple juif. Et Jésus sait qui et quelle est cette femme. Il lui parle librement et selon sa vérité à elle. Cette vérité, ce n'est pas tant qu'elle est pécheresse et samaritaine, ou désinvolte, mais la vérité, c'est qu'elle est une créature du Père, qui connaît les problèmes vraiment humains. Dieu, notre Père, connaît nos problèmes. Alors, il la confronte pas à la loi, qui est typique de bien des religions, la loi, ni à la coutume. Il la confronte à une autre loi. Qui est celle du cœur. En somme, il confronte la loi de son peuple, les coutumes de son peuple, à ce que c'est qu'une femme. Il lui parle humainement, quoi. Il refuse de canoniser nos précautions, nos petits préjugés de caste, nos petites catégories, nos séparations, nos distinctions, puis toutes ces choses qui nuisent tant à la religion partout sur la terre dans bien des religions. La conversation est simple entre eux. Elle est libre. Elle est pleine d'aisance. Et surtout, elle est élevée. C'est un des plus beaux textes de l'histoire des Écritures de tous les temps. Il lui dit d'abord, donne-moi donc à boire. Et de la part de Jésus, c'est une intention délicate. Mais elle est surprise, elle dit, comment toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine. Et Jésus n'accepte pas la discussion. Il dit, tout simplement, il change de sujet et il dit, si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, tu lui demanderais toi-même à boire. Il te donnerait de l'eau de source vive. Oui, si nous savions qui est Jésus, parce que nous ne savons pas vraiment, nous sommes tellement gauches dans notre foi, nous avons une foi tellement obscurcie qu'on ne sait pas vraiment qui est Jésus, eh bien nous lui demanderions à boire, et il nous donnerait de l'eau de source vive. Et la femme se radoucit, elle dit, « D'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que Jacob qui a creusé ce puits ?» Et Jésus passe du signe à la grande réalité signifiée, puis lui dit, « Qui boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. » Jamais soif. « Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante jusque dans la vie éternelle pour une vie continuelle. » Alors la femme lui dit, « Donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors donc, elle lui dit, « Donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors, pour maintenir la conversation, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Il sait qu'elle a plusieurs maris, qu'elle a eu plusieurs maris. Et la femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison. Tu en as eu 5 et celui que tu as n'est pas le tien. » Car elle vit avec un homme sans être mariée. Elle lui dit, « Je vois que tu es prophète. » Une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne de Garizim. Et vous, vous dites, les Juifs, qu'il faut adorer à Jérusalem. Évidemment, pour eux, c'est le problème de fond qui les sépare. C'est un problème religieux que tous ces gens-là, à cette époque, se posent sous une forme ou sous une autre, hein, ou prier. Encore un peu comme ça aujourd'hui, est-ce qu'on doit prier dans une église protestante, dans une synagogue, dans une mosquée, dans une église catholique, dans une église orthodoxe? Jésus, par sa réponse, dissout le problème et il lui dit, « Femme, femme, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit pour l'adorer en vérité. Hein? Dieu est esprit, puis il faut l'adorer en esprit pour l'adorer en vérité. Alors Jésus, dans sa réponse, il fait confiance là, à l'intuition de cette femme. Il la place dans, on pourrait dire, toute la tradition, le climat spirituel des prophètes, qui était celui des pauvres en esprit, les Anavim. Et la Samaritaine a compris, le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et son pressentiment est juste. Et Jésus lui répond alors, c'est une des paroles les plus bouleversantes de l'Évangile. Et les gens qui disent que Jésus n'a jamais affirmé qui il était, bien voyons, il lui dit à la Samaritaine, « Je suis le Christ, moi qui te parle. » Et sans discussion, sans dispute, tous les deux sont passés de l'eau du puits à la vie éternelle, à la connaissance du Père, à la confidence messianique. On est rendu dans les sommets de la réflexion, puis de la pensée, puis de la révélation. Il lui révèle, Jésus, qui il est, ce qu'il faut faire pour être heureux. Et là-dessus arrivent les disciples, qui sont absolument étonnés de ce qu'il parle avec une femme. Mais quand même, aucun ne dit « De quoi parles-tu ?» Et tandis que la femme monte au village pour raconter sa rencontre, les disciples donnent à manger à Jésus, mais lui, il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Pour lui, le pain, l'eau sont des signes d'une nourriture plus élevée. Jésus sait que l'homme qui ne se nourrit pas seulement de végétaux ou d'animaux, mais qu'il a besoin d'une nourriture à la fois humaine et divine, alors il leur dit, et ça revient toujours à ce que j'essaie de vous enseigner bien des fois, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement du christianisme depuis toujours. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Faire la volonté de Dieu, puis accomplir, donc, chercher la vérité, et faire la vérité, faire la vérité. Ils regardent descendre les Samaritains avec leur blanc manteau. Il leur dit, Jésus, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Vous allez récolter ce que d'autres ont semé. Est-ce qu'il fait allusion à la femme qui avait semé la parole en parlant de Jésus aux hommes de Sichar, parce qu'elle est allée leur dire, « J'ai rencontré le Messie. » Jésus reste 2 jours avec eux, sans donner d'autres signes que sa présence et sa parole. Ça suffit, sa présence et sa parole. Et les Samaritains, qui sont des gens loyaux, ont reconnu en lui le Sauveur du monde. Il n'y a pas eu besoin de faire de miracles chez eux, ils l'ont reconnu. Pourtant, ses compatriotes, les Juifs, qu'il verra 2 jours après, ne le reconnaîtront pas comme prophète, en dépit des signes. Mais quand même, il y aura beaucoup de Juifs qui vont le reconnaître, et c'est eux qui vont commencer, si on peut dire, le christianisme. C'est une très belle histoire, vous savez. Vous savez que beaucoup de jeunes aujourd'hui aimeraient contribuer dans notre société à l'arracher à ses décombres s'ils rencontraient Jésus, s'ils comprenaient qui il est. Et pour y parvenir, ces jeunes, comme dit Mgr Echinger, ils sont en attente d'encouragement puis de témoignages capables de leur signaler le chemin à suivre, puis le chemin à suivre, c'est Jésus. Je suis le chemin. Ils ont besoin de rencontrer des amis, pareillement travaillés aussi par le souci de cultiver puis de réanimer toutes les racines les plus profondes de l'homme. Ils voudraient bien faire quelque chose, ils savent pas comment. Puis il est regrettable que nous manquions de temps souvent pour leur parler, ou d'imagination pour le faire. C'est pas facile de nos jours. Il y a comme des espèces de brisures entre les générations et c'est compliqué. Mais peut-être que c'est pas seulement le temps qui nous manque, c'est le courage. Et en cherchant à être trop discret et humble, il nous arrive de devenir, me semble, des lâches. Jésus, lui, n'est pas lâche. Il va vers une femme. Il n'a pas le droit de parler à une femme. Elle est samaritaine en plus de ça, donc elle appartient à un autre peuple. Il enfreint une autre règle. Il lui demande de l'eau, puis il lui révèle des choses. Il ne se gêne pas pour dire ce qu'il a à dire, au risque de passer pour un fou. Il n'a pas peur. Et d'ailleurs, les risques qu'il va prendre vont conduire à la croix. Car on se révoltera contre lui et contre ses affirmations à son propre sujet. Et nous avons peur de dire chrétien, de nous dire chrétien, de nous dire catholique, de dire que nous allons à la messe, de dire que nous croyons vraiment en l'Église, que nous croyons différentes choses, de peur que les gens puissent dire ceci et cela, et qu'ils nous rejettent. Nous avons peur. Nous avons beaucoup trop peur. Le courage et l'espérance, me semble, pourraient nous préparer des renouveaux magnifiques, comme dit Mgr Elchingy. Est-ce que nous sommes vraiment des chercheurs de Dieu, des chercheurs de la vérité? Nous devenons minoritaires, c'est parce que nous nous contentons de vieilles formules usées. Des formules usées, des paroles qui empruntent un visage austère, souvent et rébarbatif. Quand on écoute la parole de Dieu, on a l'air ennuyé. Et d'ailleurs, la parole de Dieu ne nous est pas toujours dite d'une façon enthousiaste et passionnée. Oh, nous avons changé d'époque culturelle, puis il faut accommoder nos yeux aujourd'hui à une lumière nouvelle de notre temps. Il faut essayer de percevoir toutes sortes de nouveaux cheminements. Puis il faut avoir le cœur plein de joie lorsque nous rencontrons ceux que la grâce a visités. Il faut être fier de rencontrer d'autres croyants, mais à l'échange de la paix à la messe, les gens nous tendent une main molle et ne nous regardent même pas. Ils murmurent la paix du Seigneur. Tu sais d'un ennui souverain. C'est très rare que l'on rencontre à l'Église des gens qui nous regardent et nous sourient en nous disant la paix du Seigneur, et qu'on y croit, qu'on croit à cette paix du Seigneur. C'est pas surprenant que l'on trouve dans les journaux des articles comme cet éditorial d'Agnès Gruda, la contrition inachevée dans la presse du 18 mars, où elle commente le texte du Vatican, qui fait des excuses relatives au sujet de la Shoah. Puis elle finit son article en disant « Le Vatican, lui, vole au secours depuis 12. » Nous avons bien entendu aujourd'hui aux nouvelles de Radio Ville-Marie. Si vous ne les avez pas entendus à 9h, écoutez-les à midi. On vous lira un beau texte au sujet de Pie XII. Pie XII qui a sauvé des Juifs, qui a tout fait pour les aider. Eh bien, elle dit, le Vatican, lui, vole au secours de Pie XII, qui se serait terré dans le mutisme pour protéger les catholiques contre Hitler. Facile, se moque-t-elle, d'autant plus que le Vatican n'a jamais accepté de rendre publiques ses archives de cette douloureuse époque. Eh bien non, vous allez entendre qu'il les a, le Vatican les a ouvertes, ses archives. Et elle ajoute, méprise visible de la part d'une Église garantie infaillible. L'Église n'est pas garantie infaillible, c'est le pape qui est infaillible, il l'a exercé deux fois en un siècle. Toutes sortes de choses qu'on lit dans les pages les plus importantes de nos journaux. Signé Agnès Gruda, qui est juive. Quelle tristesse! Et Pierre Folia dans la presse. Des articles insensés. Hier, j'aime autant pas en parler. Revenons donc à Sainte-Foutine. C'est beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, il est question de la vérité, de la soif de la vérité. La soif de la vérité que Dieu est venu mettre au cœur de l'homme davantage et plus profondément en Jésus-Christ. C'est l'histoire de Sainte-Foutine, cette Samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Et autour de ce dialogue que je viens de vous lire au sujet de l'eau, on s'aperçoit que il faut avoir soif de la vérité. Parce que la vérité, qui est Jésus-Christ lui-même, que nous pouvons faire dans ce sens que celui qui vient faire la vérité, viens à la lumière. Comment cultiver la foi? Comment cultiver la foi autour de nous? Comment la fortifier? Comment l'éclairer? Comment la nourrir? C'est sûr qu'il faut s'instruire, il faut se mettre à jour, il faut garder contact avec l'Évangile tous les jours. N'oubliez jamais ça, l'Évangile tous les jours. Quelques minutes, lisez l'Évangile. Il faut choisir des lectures. qui nourrissent la foi. Il ne faut pas que lire des romans policiers, puis des histoires comme ça, c'est pas mauvais, c'est bon, faut se les lasser. Mais faut vous prendre des belles lectures qui nourrissent la foi, c'est clair, c'est connu. Bon, j'insiste pas. L'évangile de Saint Jean nous rappelle une règle plus méconnue et plus secrète. C'est une parole du Christ. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, comme je viens de vous dire. C'est une expression qui est assez surprenante, c'est presque surréaliste, c'est abrupt. La plupart des traducteurs, je dirais même que tous les traducteurs n'osent la reproduire littéralement, les traducteurs cherchent des adoucissements. Au lieu de dire « celui qui fait la vérité », ils vont dire « celui qui agit dans la vérité », « celui qui pratique la vérité ». Mais l'Évangile est très moderne. Saint Jean, c'est presque un auteur contemporain. L'Évangile est très moderne, en ce sens qu'il n'a pas une conception passive de la connaissance et de l'amour. Non, la vérité révélée, ce ne sont pas des théorèmes abstraits, des idées en l'air, qu'on connaît d'abord, puis qu'on applique ensuite, plus ou moins. Dans la vraie foi, tout cela, c'est inséparable. Si l'action vient de la connaissance s'accomplit dans l'action. On l'a vu hier, quand je vous ai parlé de Saint-Joseph, père adoptif de Jésus, et en parlant de lui, je vous ai parlé de ses parents, québécois, ici, qui vivent ici, et qui appartiennent à ce groupe qu'on appelle Emmanuel l'amour qui sauve, et qui adopte des enfants inadoptables. Spina bifida, paralysés cérébraux, mongoliens, enfants sans membres, etc., etc. Saint Thomas d'Aquin contient pour le plus grand théologien spéculatif de tous les siècles, de tous les temps. Il avait fort bien compris cela, il le déclare dès le début de la somme de théologie, son immense ouvrage. La théologie n'est pas une science purement spéculative, elle est aussi une science pratique, pratique, dit-il. On ne connaît vraiment Dieu qu'en vivant Dieu, en laissant Dieu vivre en nous. C'est comme ça qu'on le connaît. Autrement, c'est rien de la spéculation, c'est une des idées en l'air. C'est du blablabla. Il y en est ainsi de toutes sortes de connaissances, d'ailleurs. Prenez, mettons, on va prendre un exemple, la musique. Vous aimez beaucoup la musique, probablement, parce qu'il y en a de belles musiques à Radio Ville-Marie. Eh bien, la musique appelle à différents degrés un engagement, hein, une participation active. Sans cela, les sons restent plus ou moins confus. Si on plonge pas dans le thème d'une symphonie ou d'un concerto, là, puis si on nage pas là-dedans, puis on se laisse transporter comme si on était presque à cheval sur un gros oiseau magnifique, là, et on vole. Ou bien, si on était comme... on avait soi-même des ailes. Et c'est si beau. La connaissance de foi, c'est une praxis, comme on dit en théologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est une connaissance qui construit l'homme. C'est une connaissance qui se perfectionne par cette construction même. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas... prenons un exemple. C'est pas comme le marxisme, une praxis de la lutte, hein, ou les engagements politiques. C'est une praxis de la lutte. Non. La connaissance de foi, là, c'est une praxis de l'amour. C'était chanté tout à l'heure en latin. Praxis de l'amour, de la rencontre, de la communication. Comme Sainte-Fautine qui prêchait, dit-on, à Carthage. Saint Jean, dans sa première épître, il dit « Petits enfants, n'aimons ni de mots, ni de langue, mais en acte, véritablement. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité. » C'est ça la vérité. Aimons-nous cette vérité qui nous oblige à agir, qui nous oblige à être vraiment conséquents. Saint Jean dit aussi, « À ceci nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. » Celui qui dit « Je le connais » et ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Est-ce que nous haïssons nos enfants? On n'en veut plus. On les tue. Il en est ainsi de toute connaissance d'ordre personnel, finalement, de toute connaissance liée à l'amour. Hein. Une amitié, ça se construit. Oui, une amitié, ça se construit. Écoutez ça, les jeunes, là, vous avez des amitiés. Ça se construit, des amitiés. Il y a l'amour qui va naître dans vos cœurs, là. Un amour, ça se construit aussi. Et vous qui avez eu des malheurs dans vos amours. L'amour, ça se construit. L'amour, impossible. Malheureusement, de Tristan et Iseult, puis de tous les autres, de René et Juliette, ce n'est qu'une espérance d'amour. On voit ça dans le film Titanic, hein, d'un désespoir d'amour. Et ce mythe de l'amour impossible, c'est lié à la conception pessimiste, selon laquelle l'amour serait un mirage, sa réalisation une désillusion. C'est pas vrai. L'amour parfait, l'amour idéal, on prétend que ça pourrait n'être qu'irréel. Mais qu'est-ce que cet amour qui regarde sans rencontrer dans lequel nous vivons aujourd'hui? On se donne la main, comme je vous disais tout à l'heure, à la messe, puis on se rencontre même pas, il ne nous regarde pas. Ou ces rencontres sans concevoir dans la sexualité. Hein? Les gens se rencontrent, couchent ensemble, ne savent même pas leur nom, ils ne veulent surtout pas concevoir, ils ont tous les appareils qu'il faut. Ou bien ils conçoivent sans enfanter parce qu'ils prennent la pilule du lendemain, ou bien ils avortent. Qui dira si cet amour-là n'était pas une illusion? C'est pas l'amour, ça. L'amour humain authentique, il faut le chercher chez ces hommes et ces femmes qui ont su assumer toujours ensemble le meilleur et le pire, hein, comme les parents de l'association Emmanuel dont je vous ai parlé hier. Ils assument les joies et les tristesses, les labeurs, les travaux, les difficultés, les épreuves. Et les joies, les joies! Et jusqu'au soir de leur vie, on les voit qui jettent sur tout ce qu'ils ont réalisé, en eux-mêmes et hors d'eux-mêmes. Ils jettent le regard sur leurs enfants, là. Notamment, c'est un regard sans regret, hein? Et puis c'est sans nostalgie. Je voyais l'autre jour à l'écran, c'était bouleversant, un homme qui est devenu prêtre après la mort de sa femme. De nombreux enfants, de très nombreux petits-enfants. Et puis, il descend de l'autel avec ses ornements, les cheveux blancs. Puis il y a ses fils, des grands garçons, mariés, des filles, puis des petits-enfants en quantité, et qui sont tout fiers de voir ce grand-père, prêtre, d'un regard sans regret, hein, sans nostalgie. L'amour de ces couples est fait de tous les liens qu'ils ont tissés au cours des années, de tout ce qu'ils ont construit ensemble. À défaut de tout cela, ce ne serait pas le même amour. Cet amour procède de cette foi conjugale à laquelle on ne croit presque plus, puis qui est bafouée, bafouée. Hier, Folia se moquait de la famille, dans la presse. Bon, la famille, la famille. Comme si c'était rien, la famille. Parce que le mariage commence donc par une foi. C'est le serment par lequel les deux époux se lient, se confient, se lient, se marient l'un l'autre pour s'appartenir dans toute la bonne foi qu'ils ont, puis la confiance, évidemment. Hein. L'analogie de la foi en Dieu avec ce que saint Augustin appelait la foi du mariage, c'est donc très, très éclairant. Hein. Et le mariage est aussi un amour qui procède d'une connaissance. L'amour ne serait pas venu si l'on ne s'était pas connu. C'est une vieille chanson qu'on entendait avant la dernière guerre. Mais cette connaissance n'est pas de type scientifique, la connaissance des amoureux. La manière dont le médecin et le psychologue connaît qu'un couple, Jean et Monique, la manière qu'il a, c'est pas celle dont eux se connaissent l'un l'autre dans leurs relations interpersonnelles, comme on dit aujourd'hui. Leur connaissance implique, dans un couple, un engagement, un don de soi réciproque. Elle se perfectionne dans l'échange, dans la vie commune. C'est la même chose pour nous avec Dieu, avec Jésus. La connaissance que les époux ont forme une réalité nouvelle, c'est la même chose pour nous. Une personnalité commune qui n'est plus celle de l'un ou de l'autre, mais des deux ensemble, et de leur identité, leur complémentarité, leur communion. Et quand on vit comme ça avec Jésus, tout est transformé. Il devient une source d'eau vive, il nous donne de l'eau fraîche. Cette connaissance progresse ordinairement de l'imagination à la vérité, de l'illusion à l'authenticité. C'est comme ça que ça progresse. Sans qu'il y ait nécessairement des illusions. Parce que le propre d'un foyer réussi, c'est qu'il n'a pas la nostalgie des fiançailles comme d'un bonheur perdu. C'est qu'il vit dans le présent, toujours tourné vers l'avenir. Et quel est cet avenir? C'est celui des enfants, celui des petits-enfants. Et je plains les couples qui n'ont pas adopté, qui sont restés seuls face à face. À leur niveau transcendant, la foi en Jésus-Christ, c'est aussi une connaissance d'une personne, comme je viens de vous l'insinuer. La personne du Verbe incarné. Faut tomber en amour, quoi. Cette connaissance est liée à une vie commune, à un travail commun, à la formation d'un être nouveau qui est le corps mystique du Christ dont on parle si peu. L'Église, c'est le grand corps mystique du Christ. Et cette connaissance se perfectionne dans la coopération avec tout le monde qui travaille à l'œuvre de la libération de l'humanité. Libérer les cœurs, les esprits. Libérer les aspirations, les désirs, tout libérer. C'est ça le christianisme. Et c'est en s'engageant dans cette œuvre de libération, de salut, en faisant cette vérité, en la faisant la vérité, que l'on vient à la lumière, comme dit saint Jean. Et chez beaucoup de chrétiens, qui vivent dans une espèce d'obscurité de la foi, bien, le caractère lointain et vaporeux de cette connaissance tient à ce qu'il s'agit d'une foi sans rien, quoi. Une foi qui engendre rien. Sans engagement. Une foi désincarnée. Une foi... C'est une connaissance, c'est une foi qui n'a pas pris corps. Hein. Elle ne vient pas à la lumière. Pourtant, Jésus dit bien, si tu savais le don de Dieu. Bien des chrétiens ont reçu au catéchisme ou ailleurs quelques vérités, oh, bien abstraites. Et, au fond, et malheureux à dire, c'est à faire pleurer, ils n'ont rien compris. On peut pas les blâmer, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire, on peut prier pour eux, c'est tout. Ou essayer de les évangéliser, et de leur faire connaître Jésus-Christ, mais ils n'ont rien compris. À l'occasion, ces gens-là, ces chrétiens-là aiment en raisonner. Ils discutent, devant un prêtre surtout, ils aiment bien ça, avec une idée derrière la tête de faire preuve, là, par leur discussion puis leur papotage, là, qu'une certaine foi existe encore en eux. Ils aiment bien ça. Mais leur vie, leurs recherches, leurs projets, leurs métiers, leurs désirs, sont établis sur des bases tout autres. Et c'est ainsi que leur foi dépérit petit à petit. Puis ils le regrettent, parce qu'ils ont assez de foi quand même pour regretter tout ça. Et souvent, on en rencontre qui souhaitent sortir de là, mais ils ne savent pas comment. Puis il n'y a personne pour les aider, et c'est comme si le peuple était sans pasteur. La voie du salut, pourtant, elle est tracée dans l'Évangile, dans le sermon sur la montagne. Ceux qui aiment les pauvres et qui savent s'engager pour eux, comme les parents d'Emmanuel hier, là. Ceux qui visitent les prisonniers, comme on en entend à la radio, à Radio Ville-Marie, qui nous donne des exemples magnifiques de visiteurs de prison. Ceux qui nourrissent ceux qui ont faim, comme le toit de Bethléem. Ceux qui revêtent ceux qui sont nus, comme les gens de la Société Saint-Vincent de Paul. Ceux qui soignent les malades, comme les infirmiers, les médecins qui viennent parler à Radio Ville-Marie. Ceux qui travaillent à réaliser la paix. Oui, ceux-là trouvent la lumière. Ceux-là trouvent la lumière. Je continue pour ce qui est de la recherche de la vérité. Ce que je viens de dire, c'est bien beau, n'est-ce pas? Il suffit de lire donc, de s'instruire, puis de lire les évangiles, puis que la voie du salut, elle est tracée dans l'évangile par Jésus même, dans le sermon sur la montagne. Bien heureux, qui devrait se traduire d'après Chouraki dans sa Bible, debout, debout, hein. Oui, debout, mais bien heureux, quoi. Mais le sentier est secret un peu, hein, pour devenir des bienheureux, des gens debout, des chrétiens courageux, des chrétiens qui changent le monde, qui changent Montréal, qui changent le Québec. Chaque homme, chaque génération doit le redécouvrir. C'est toujours à recommencer. Hein. C'est toujours à débroussailler. Selon sa propre vocation, en lisant des vies de saints, mais en lisant les évangiles surtout, et en priant. Et notre époque a beaucoup à faire à cet égard. Hein. L'Église, c'est encore trop, il me semble, un spectacle pour bien des gens. Une espèce d'alibi aussi. C'est pas assez un engagement. L'Église, ça doit être un engagement. On n'est pas membre de l'Église simplement comme ça. Pensez-vous qu'un joueur de hockey est membre du club canadien simplement pour le spectacle? Il doit s'engager et jouer. Et nous aussi. Beaucoup se contentent d'accepter, tout ce que fait et dit le pape comme ça. Ils vont dire ce que je crois, aller le demander à Rome. Des chrétiens célèbres, comme ça, qui répondent quand on fait des enquêtes sur la foi. Ce que je fais pour le règne de Dieu, pourrait répondre bien des gens. Allez le demander à Rome. J'accepte tout ce qui s'y fait. Et ils sont assis. C'est étrange, cette attitude d'extrême droite. Mais avec cela, l'Église n'existe pas à la base. Pour qu'elle existe à la base, ici, dans nos rues, dans nos paroisses, dans nos associations, dans nos industries, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, en somme dans les églises particulières comme l'église de Montréal, l'église de Saint-Jérôme, l'église de Saint-Jean. Mais oui, faut que cette église existe dans la base, à travers tout le monde. Ce que l'on croit est fait à Rome, même si c'est très beau. Reste peu de choses si ce n'est pas effectivement cru et participé par chaque croyant. Il faut en vivre de ce qui se vit de bien et de beau à Rome. De même que ce qu'on mange à Rome ne saurait nourrir ceux qui ont faim à travers le monde, c'est évident. Parce que la vérité dont parle Jésus, c'est une nourriture que personne ne peut manger pour quelqu'un d'autre. Cette vérité, il faut qu'elle pénètre le cœur de chaque personne. Il suffit pas de suivre l'activité du pape au service de la paix, ses discours, ses contacts, sa diplomatie, si admirable soit-elle, et quel pape merveilleux nous avons, hein, ni même d'y applaudir pour réaliser la parole de l'Évangile. Ça suffit pas. Il faut que chaque chrétien, là où il est, répande la paix, l'amour, le pardon, la tendresse. Il faut que quand un laïc s'adresse à un prêtre, qu'il ne soit pas rabroué, et vice-versa. Il ne suffit pas de suivre les rencontres du pape avec, le patriarche des orthodoxes, le Dalai Lama, etc. Il faudrait que les chrétiens un peu partout à la base établissent des contacts écuméniques dans la même ligne, tracée par le concile. Pour ça, je vous ai fait des émissions sur Bouddha, sur Milarepa, le grand saint tibétain, pour qu'on puisse comprendre. Et bientôt, il y en aura sur des musulmans, grands saints musulmans, un hindouiste bientôt. Il ne suffit pas de donner à des œuvres qui réalisent la charité là où il y a des pauvres, il faudrait que les chrétiens un peu partout, eux, prennent des responsabilités personnelles sur le terrain, comme Emmanuel. Il faut adopter peut-être des itinérants, les faire entrer chez soi puis les nourrir. C'est bien beau, ils vont à la maison du Père ou à l'accueil Bonneau, puis dans nos maisons, est-ce qu'ils viennent aussi? Est-ce que nous, chrétiens, on fait de nos maisons des maisons d'accueil pour les plus pauvres? Oh, ils vont nous voler. Ils vont nous mentir, bien oui. Puis après, on les aura un peu aimés. Les engagements, il y en a de toutes sortes, hein, qui permettent de faire la vérité, comme je vous ai dit au début de cette demi-heure. Faire la vérité, comme le Christ nous y invite. Hein? Faire la vérité, ben, il y a l'engagement liturgique, la participation vraiment active à la prière de l'Église, c'est déjà un début. Puis là où la réforme liturgique est bien comprise dans certaines de nos paroisses, est bien réalisée, bien vécue, vous êtes chanceux. Parce que ça entraîne, d'elle-même, cette réforme, des réorientations concrètes dans l'existence même de ceux qui prient ensemble pour vrai. Car le propre de la liturgie chrétienne, c'est qu'elle ne s'achève pas en elle-même. Notre liturgie, c'est une action concrète et vraie d'adoration et d'amour. Elle est faite pour se prolonger par l'oblation de toute la vie. C'est ce que saint Paul appelle les sacrifices de louange. Oui, saint Paul entend par là que tout ce qui fait notre vie, conduite selon l'Évangile, pénétrée par l'amour, donnée à Dieu et aux hommes, c'est ça qu'on la messe. Ce sacrifice-là, nul ne peut l'offrir à notre place, il est irremplaçable dans le corps mystique. C'est comme ça. Il faut vivre et mourir dans un grand geste d'amour et de tendresse. Toujours en priant pour tout le monde, avec des intentions très concrètes sur les nécessités de l'Église à ce moment-là. Les nécessités de l'Église sont nombreuses. Mais quand on demande aux gens s'ils ont des intentions, rares sont les intentions qui recouvrent l'Église. Il faudrait qu'on suive de plus près la vérité, le Christ. Il y a une règle d'or qui peut aider grandement à faire la vérité, parce que Dieu se communique aux hommes en groupe, dans une communion humaine. Oui, il est bon d'être présent à l'Église, en communauté humaine. Essayez, c'est pas facile parfois, les réunions sont tellement pas drôles parfois. Mais il y en a de très belles. De très, très, très belles.